Merci d'écouter RFI. Il est 5h30 à Paris, Bruxelles et Kinshasa, 6h30 à Kigali. Et voilà Xavier Besson, bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
À la une de votre journal, le Rwanda plaide sa cause auprès de l'Union Européenne.
Alors qu'à Bruxelles, des mesures sont sur la table pour sanctionner le soutien de Kigali au M23, le chef de la diplomatie rwandaise a notamment rencontré son homologue de l'UE et a minimisé la responsabilité de son pays. Compte rendu dans un instant. Alors que de son côté, Kinshasa dit simplement prendre acte après que l'Angola annonce des discussions directes avec les rebelles M23. Ce que la RDC a pour le moment toujours refusé. On s'intéressera aussi à la Convention pour la Révolution Populaire, nouveau mouvement politico-militaire lancé par Thomas Lubanga, le chef milicien qui estime que sa région de l'Ituri est délaissée par les autorités centrales congolaises. Dans ce journal également, la visite sur l'île Maurice du Premier ministre indien et l'opposant mozambicain Venancio Mondlane qui est placé sous contrôle judiciaire alors qu'il a porté plainte contre le président Daniel Chapeau pour incitation à la violence. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Baptiste Leduc. On parlera notamment de football en plein huitième de finale retour de la Ligue des Champions en Europe. Et alors que la CAF, la Confédération africaine, doit reconduire aujourd'hui Patrice Motsepe à sa présidence. La présidence congolaise dit donc prendre acte et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Après une rencontre avant-hier entre le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, la présidence angolaise annonce des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda, qui occupe aujourd'hui les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que de larges pans des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu. Des discussions directes que la RDC a pour le moment toujours refusé, le chef de l'État congolais estimant que les négociations devaient se faire directement avec son homologue rwandais. Et la situation de l'Est congolais, il en a été question ces derniers jours à Bruxelles, à l'initiative cette fois du Rwanda, déplacement du ministre rwandais des Affaires étrangères, venu défendre la position de Kigali, alors que les instances de l'Union européenne, elles, planchent en ce moment sur des sanctions ciblées contre des responsables rwandais. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, le ministre rwandais des Affaires étrangères a surtout tenu à affirmer que le conflit dans l'est du Congo n'avait pas été déclenché par le Rwanda. Olivier Nduhungirehe estime que le Rwanda, je cite, n'accepte pas de porter le fardeau des échecs de sécurité et de gouvernance de la RDC. À Joseph Sikela, le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, il a soutenu que le Rwanda était engagé en faveur de la paix dans l'espoir de voir décoller partenariats et développement économique. Kaya Kallas et Joseph Sikela lui ont tenu le même discours. Le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale de la RDC et s'engager dans des négociations. Les Européens espèrent qu'une solution politique pourra être enclenchée par une réunion ministérielle conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe. Les sanctions européennes à l'encontre d'une entité et de 9 personnalités rwandaises sont en suspens dans l'attente de cette réunion, pour l'instant repoussée. Ces tergiversations de l'Europe pourraient lui être reprochées lors du sommet UE-Afrique du Sud ce jeudi au Cap. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Dans le même temps, à Kinshasa, le secrétaire général adjoint du PPRD, le parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila, dénonce ce matin de l'acharnement après que lundi, plusieurs cadres du parti ont été entendus pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire à Kinshasa. Les autorités les soupçonnant de collusion avec les rebelles du M23, ce qu'ils ont démenti. Lui fait partie des personnalités congolaises que les représentants des églises catholiques et protestantes avaient rencontrées au début du mois lors de leur étape en Ouganda en vue de préparer une initiative de dialogue. Il s'agit de Thomas Lubanga, le chef milicien congolais qui vit aujourd'hui en exil à Kampala, et c'est de la capitale ougandaise qu'il a créé au début de l'année un nouveau mouvement politico-militaire. Thomas Lubanga, je vous le rappelle, condamné à 14 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des faits de crimes de guerre, est libéré il y a 5 ans maintenant après avoir purgé sa peine. Aujourd'hui, il estime que l'Ituri, sa région d'origine, est délaissé par les autorités congolaises au profit des Kivu. Que sait-on de ses ambitions et des contours de son projet? On voit cela avec Patient Ligaudy.
Le mouvement s'appelle Convention pour la Révolution Populaire et dispose d'une branche armée, les Forces pour la Révolution Populaire. Les premières réunions formelles ont eu lieu en janvier et février à Kampala avec des représentants de groupes armés ituriens, dont la FRPI, qui fut l'un des plus grands mouvements armés de la province, et le groupe Zaïre. Un protocole d'accord a été signé définissant les bases d'un mouvement politico-militaire. Le colonel Justin Lobo Zissi, un officier des FARDC, y occupe une place importante selon plusieurs sources. Le mouvement rejette tout lien avec la FCM 23, contrairement aux accusations des experts de l'ONU, qui évoquent des connexions indirectes. Selon ses membres, il s'agit d'une tentative de délégitimation auprès de la population congolaise. Mais le mouvement est-il déjà en action? Ses représentants refusent de répondre. Pourtant, l'armée congolaise assure que ses combattants sont responsables d'attaques dans certaines localités du territoire de Djougou, notamment Nyamamba et Datoulé, chefferie des Baema Baniwagi, dans le territoire de Djougou. Leur objectif, selon Kinshasa, serait de progresser vers Tchomia, une agglomération située à 90 km de Bunia, sur les rives du lac Albert, qui marque la frontière avec l'Ouganda. Face à cette situation, l'armée congolaise assure qu'il s'agit d'un mouvement sans avenir, affirmant que plusieurs communautés locales ont déjà rejeté cette nouvelle rébellion.
Patient Ligodi, cette question. Au Soudan du Sud, des unités des forces spéciales ougandaises sont-elles déployées en ce moment à Djouba? C'est ce qu'affirme à la fois le chef de l'armée ougandaise et le porte-parole de cette même armée. Ce dernier assure que ses troupes ont pour mission de protéger le gouvernement du président Salva Kiir. Hier, le ministre de l'Information du Soudan du Sud a démenti. On se rappelle qu'en 2013 et en 2016, déjà, l'Ouganda avait déployé des troupes en soutien de Salva Kiir. Au Burundi, toujours pas d'audience hier au procès de la journaliste Sandra Mwoza. Procès en appel après une condamnation en première instance pour atteinte à l'intégrité du territoire national suite à des propos tenus sur une conversation privée sur WhatsApp. L'audience prévue hier donc a été reportée sine die, d'après les proches de la journaliste, faute de carburant pour l'amener au tribunal. Des arrestations au Cameroun, une vingtaine de personnes interpellées avant-hier par les forces de l'ordre à Mblada. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Des personnes soupçonnées d'avoir participé directement à l'assassinat des chercheurs Mounsi Frédéric et Bello Bienvenu, et leur guide, le dimanche 2 mars dernier. RFI, 8h37 à Port-Louis sur l'île Maurice. Question militaire et économique. Dernier jour aujourd'hui de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, sa deuxième en tant que chef du gouvernement. Un déplacement qui coïncide avec les célébrations de l'anniversaire de l'indépendance mauricienne et qui intervient surtout dans un contexte de renforcement des relations bilatérales et d'enjeux géopolitiques majeurs dans l'océan Indien. À Port-Louis, Abdoulaye Rally.
Indépendamment des changements politiques, l'Inde a toujours maintenu des liens étroits avec Maurice, parce que l'île est bien plus qu'un partenaire pour New Delhi. C'est une mini-India, selon les propres mots de Narendra Modi. L'île constitue en effet une pièce essentielle dans la stratégie régionale indienne. Pour cette visite, le Premier ministre indien vient notamment consolider l'accord sur Agalega, une île lointaine de la République mauricienne où l'Inde a installé un poste d'observation militaire. Ce partenariat, pour lui, New Delhi, permet à l'Inde d'étendre sa surveillance maritime dans cette zone stratégique du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'inscrit dans le cadre de son projet SAGAR, ce programme de sécurité maritime régionale qui a pour objectif principal de contrer l'influence de la Chine dans l'océan Indien. Dans cette optique géopolitique, l'Inde s'aligne avec les États-Unis. Cette alliance s'est d'ailleurs manifestée lors des négociations avec Londres et Washington pour la rétrocession des Chagos à Maurice, processus auquel participe New Delhi. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Il assure que ça n'affectera pas ses activités politiques au Mozambique. Le principal opposant venant sur Mondlane voit ses déplacements restreints par la justice, pas plus de 5 jours hors de sa résidence, et il a l'obligation d'en avertir les autorités. Décision de la justice mozambicaine, alors que venant sur Mondlane, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, voit désormais son nom apparaître dans 8 affaires judiciaires liées à la contestation des élections. Et hier, alors qu'il était convoqué au tribunal, il a lui-même porter plainte contre le président Daniel Chapo pour incitation à la violence, nous explique Gaël Lalex.
C'est un discours prononcé par Daniel Chapou le 24 février dans le Cabo Delgado qui fait l'objet de la plainte de Venancio Mondlane. Le président mozambicain avait alors comparé la répression de la contestation post-électorale à la lutte contre le terrorisme dans cette région du nord du pays. Comme les jeunes qui versent leur sang pour défendre l'intégrité territoriale du pays, nous verserons le sang pour défendre la patrie contre les manifestations, avait déclaré Daniel Chapou. Un discours que Venancio Mondlane qualifie de guerrier et qui empêche tout dialogue constructif, peut-on lire dans la plainte. En outre, l'opposant affirme avoir été l'objet d'un attentat le 5 mars lors d'une manifestation. Selon la plateforme de la société civile Décide, son véhicule a en effet essuyé 6 tirs à balles réelles lors de la répression de cette marche. Venancio Mondlane a été lui-même entendu par le procureur général hier. Il fait l'objet de plusieurs plaintes allant de la destruction de biens publics à la subversion ou encore aux troubles à l'ordre public. Devant le bureau du procureur, un rassemblement de ses militants a été violemment dispersé par la police à renfort de gaz lacrymogène. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Aux Comores, le débat est lancé. Peut-on se déplacer en ville sans pièce d'identité? La police nationale a lancé une vaste opération de contrôle. Question de sécurité et possibilité d'identification en cas de problème, affirment les autorités, qui affirment par ailleurs qu'il ne s'agit pour le moment que d'opérations de sensibilisation. Mais tout le monde à Moroni ne l'entend pas de cette oreille. Correspondance d'Abdallah Zembaba.
Selon la police, cette opération vise avant tout à sensibiliser la population à l'importance de toujours avoir une pièce d'identité sur soi, notamment pour des raisons sécuritaires, mais pas que. Yakout Abdurrahman, commissaire adjoint au commissariat central de Moroni.
Nous avons vu et vécu des cas qui nous ont interpellés. Il y a eu des cas de découvertes de macabres, il y a eu des cas d'accidents de circulation mortels où il était difficile d'identifier ces personnes-là. Donc nous pensons qu'avec une pièce d'identité, cela nous paraîtra encore plus judicieux.
Toutefois, la possibilité d'être interpellé en cas de non-présentation d'une carte d'identité soulève des critiques. Hissan, une habitante de Moroni, estime qu'il faut davantage de communication avant de sévir.
La procédure est normale, mais je crois qu'il y a des personnes qui n'étaient même pas informées. Ils se réveillent le matin, ils vont marcher, ils se font contrôler.
Pour l'heure, aucune arrestation n'est prévue puisque la mission est censée être pédagogique et de sensibilisation. Mais plus tard, ces contrôles pourraient se durcir avec des patrouilles renforcées, notamment dans certaines zones jugées sensibles. Le juriste Abdou El Wahab Msabakar souligne que des contrôles systématiques pourraient porter atteinte à la liberté de circuler. Il ajoute que circuler sans pièce d'identité n'est pas une infraction.